Allez, tout de suite, notre séquence à l'état sauvage. Nous allons nous envoler avec les oies cendrées.
Sud Radio, vos animaux à l'état sauvage.
Pourquoi je vous parle d'oies, mais pas du tout, nous allons parler de grues cendrées. Bonjour Pierre Rigaud, merci d'être avec nous, vous auriez rectifié de toute façon.
Bonjour Natacha, mais oui, mais vous l'avez fait vous-même, j'en étais sûr.
Vous allez bien Pierre ?
Très bien, merci.
Bon, c'est une période de l'année assez intéressante puisque les grues cendrées, et non pas les oies cendrées, sont en pleine période de migration printanière. Ce sont des animaux assez fascinants. Ce sont d'abord de grands voyageurs. Vous allez nous expliquer tout ça. Et puis, je crois qu'il y a une façon assez simple de les reconnaître pendant leur vol, là, quand elles passent au-dessus de nos têtes. Hein.
Ah ben d'abord, on les entend, que ce soit voilà. Le jour ou la nuit. Elles font, c'est pour ça aussi qu'elles portent ce nom de grue. Enfin, en tout cas, on suppose, ça fait partie des hypothèses, parce que leur cri, c'est plus ou moins grou-grou. Alors, je ne sais pas bien, mais on entend ça de très loin, parce qu'elles peuvent passer à plusieurs centaines de mètres d'altitude. Et elles crient tout le temps, en fait. Et ça leur permet de rester en contact, parce que, bon, c'est pas toujours, y a pas toujours une bonne visibilité, etc. Donc, elles entretiennent comme ça leur relation pendant leur relation vocale pendant leur trajet migratoire. Et quand on entend ce genre de cri, immanquablement, ce sont des grues que parfois on ne voit pas quand c'est en pleine nuit. Rien que le son, c'est assez fascinant, mm-hmm. parce que ça porte loin.
Elles se déplacent vraiment en nombre ?
Oui, c'est une des caractéristiques. Il n'y a pas que elles qui sont des oiseaux migrateurs qui se déplacent en groupe, mais ça peut être plusieurs centaines, plusieurs milliers d'individus.
Ah oui.
Qui volent avec ces fameux vols en V, comme font justement les oies d'ailleurs, ou les cormorans ou d'autres. Alors, si on ne les entend pas, il faut quand même faire attention à ne pas confondre, ce qui n'est pas toujours évident quand c'est très loin, parce qu'il y a par exemple plus souvent des cormorans qu'on peut voir et de très haut, vous allez me dire, ça n'a rien à voir, mais en fait, quand c'est à très grande distance, des fois, ce n'est pas évident de faire la différence. Alors, les grues, bien sûr, elles ont ces longues pattes qui permettent de les identifier, mais elles ont aussi leur long cou qui est tendu, contrairement, par exemple, aux hérons, qui ont à la fois des longues pattes, mais eux qui ont le cou replié en S. Donc une fois qu'on a repéré qu'il s'agit bien de grues, qu'on a écarté la possibilité que c'est de cigognes par exemple, eh bien c'est un spectacle franchement fascinant. Et parfois c'est un V qui est très très étalé ou plusieurs V à la suite. Et puis parfois elles peuvent se remettre en nuage un petit peu plus dispersé, le temps de se repérer à nouveau dans l'espace quand elles savent plus bien où aller. Ça arrive parfois, notamment quand il y a du brouillard. Et puis après, elles reprennent cette formation. Et des fois, le passage, quand il y a des milliers de grues, peut durer longtemps. Parce que c'est plusieurs vols l'un après l'autre. Et c'est franchement superbe à voir.
Alors, avant de détailler leur parcours migratoire, qui est assez intéressant, est-ce que vous avez quelques explications sur cette formation de vol en V ? J'imagine qu'il y a une raison à cela.
Ah oui, bah alors tous les gens qui font du vélo en groupe ont la solution. C'est que tout simplement, celui qui est devant, ben, il a plus de vent, plus de résistance à l'air, donc il se fatigue plus. Et ben, quand on voit le Tour de France à la télé, on voit que celui qui est en tête se fait remplacer par un autre, il y a une sorte de roulement comme ça, ben, c'est exactement pareil chez les oiseaux migrateurs, c'est-à-dire la grue qui est à la pointe du V, c'est elle qui fait le plus d'efforts, et peu à peu, elle se fait remplacer par d'autres, et comme ça, celui qui est derrière s'économise. Et c'est pour ça que plein d'oiseaux, surtout les gros oiseaux, les grands oiseaux, volent en V lors des parcours migratoires. Sans ça, il y aurait beaucoup plus de difficultés.
Alors, je parlais de migration printanière. Quel est le parcours réalisé par ces grues ? Donc là, elles partent dans un sens, ça veut dire qu'elles vont faire le parcours aussi dans un autre sens en hiver. Racontez-nous un peu ce phénomène migratoire assez intéressant.
Et oui, en ce moment, elles sont en train de regagner leur quartier de printemps et d'été pour aller se reproduire. Donc, elles sont en train de remonter en passant par une diagonale qui va du sud-ouest de la France au nord-est. Alors, elles viennent d'Espagne où elles ont passé l'hiver ou de certains endroits en France, et d'ailleurs de plus en plus, parce que comme les hivers sont de plus en plus doux, et bien elles migrent de moins en moins loin. Il y en a de plus en plus qui restent en France. Mais grosso modo, la tendance, c'est qu'en ce moment, elles remontent vers le nord-est pour aller se reproduire un tout petit peu dans le nord-est de la France, vraiment de façon très rare, mais surtout en Allemagne, en Scandinavie, en Suède, en Finlande, voire en Pologne. Et ensuite, on les reverra passer dans le sens contraire quand elles descendront après s'être reproduites en automne, où elles hiverneront, elles passeront l'hiver, pareil, sur certains lieux en France ou en Espagne. C'est une particularité qui, comment dire, à la fois, c'est bien sûr au principe général de beaucoup d'oiseaux migrateurs, mais à la fois, leur trajet est assez bien cadré, si je puis dire, parce que c'est vraiment essentiellement une diagonale comme ça qui traverse.
Alors, c'est assez fascinant, ce phénomène de migration chez les oiseaux, Pierre Rigaud. Qu'est-ce que l'on sait, finalement, qu'est-ce que l'on a comme explication sur le fait que les oiseaux, certains oiseaux, sont capables, comme ça, de faire des parcours migratoires de très, très longue distance, avec des repères qui nous échappent un peu, quand même?
Ouais, qui nous échappent, surtout pour des oiseaux comme les grues, qui sont capables de migrer à la fois le jour et la nuit, ce qui n'est pas le cas de tous les oiseaux. Alors, en fait, si elles partent vers le sud, c'est parce qu'il n'y a plus les conditions qui leur conviennent en hiver et que c'est pour elles difficile de trouver de la nourriture. Par exemple, si le sol est gelé, parce qu'elles se nourrissent au sol en picorant tout un tas, soit de petits invertébrés ou de petites graines. Et les hivers sont, quand les hivers sont plus rigoureux, elles migrent plus loin vers le sud. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'elles migrent de moins en moins loin. Mais ensuite, il faut pas qu'elles aillent n'importe où, bien entendu. Donc, elles ont besoin d'apprendre le trajet. Et ça tombe assez bien, c'est que les jeunes, qui vont bientôt naître, enfin bientôt au cours du printemps qui vont naître, et bien ensuite feront leur premier voyage accompagnés de leurs parents, accompagnés de toutes les autres pour descendre vers le sud.
Et ensuite, donc il y a une transmission comme ça entre générations sur ce parcours migratoire.
Oui, ce qui se retrouve aussi chez des oies par exemple. Et ensuite elles ont des moyens de se repérer qu'on ne connaît pas forcément parfaitement parce qu'il y a quand même encore un peu de mystère dans la façon qu'ont les oiseaux de manière générale de se repérer pour la migration. Alors selon les espèces, ça a été plus ou moins étudié. On parle beaucoup, depuis longtemps, du champ magnétique, par exemple, que certains oiseaux savent reconnaître, la position du soleil, des étoiles, les repères topographiques, les repères simplement la mémoire des lieux. Et alors le fait d'être en groupe comme ça, ça permet aussi d'avoir autant de cerveaux de grues qui repèrent le trajet. Donc c'est quand même un avantage.
C'est vrai, travail d'équipe.
Absolument, c'est assez fascinant chez ces grues cendrées de voir que les trajets migratoires sont vraiment toujours les mêmes avec un couloir qui est pas très large, un couloir de migration pas très large. Alors je vous disais, c'est axe sud-ouest-nord-est. Il y en a un petit peu aussi dans le sud-est de la France, c'est en moins grand nombre. Et c'est vrai que pour nous qui sommes au sol, soit on a la chance d'être pile là où elles passent, et c'est un spectacle merveilleux, soit on est un petit peu à côté et on les loupe complètement.
Mm-hmm. Est-ce que ces grues sont protégées, Pierre Rigaud?
Oui, ça fait des décennies, et fort heureusement que les grues cendrées sont protégées en France. Si elles ne l'étaient pas, il n'y en aurait pas autant. Et la bonne nouvelle, c'est que les grues cendrées, franchement, se portent de mieux en mieux. Maintenant, il y a au total quand même plusieurs centaines de milliers de grues qui traversent la France dans les deux sens, donc, chaque année. Et même, elles commencent peu à peu à se reproduire un petit peu, à rester un petit peu en France pour se reproduire très ponctuellement. Heureusement que ces oiseaux sont protégés et il faut qu'elles le restent. C'est pas parce qu'on a l'impression qu'elles sont nombreuses qu'il faut qu'elles ne soient plus protégées.
Oui, c'est l'effet de masse du phénomène migratoire, mais en réalité, d'abord, elles ne sont pas tellement dérangeantes, ces grues, en plus, sur la nature, au contraire.
Non, alors il y a un tout petit peu de conflit qui existe, c'est vrai, mais c'est vraiment ponctuel. C'est lorsque les grues vont, par exemple, se nourrir dans des champs à l'époque où il y a des semis de blé, mais ça reste assez ponctuel, même si les grues sont très nombreuses. En fait, le plus souvent, ce qu'elles aiment glaner dans les champs, surtout quand elles reviennent à l'automne et qu'elles s'arrêtent sur des grandes étendues de campagne française, c'est plutôt des grains de maïs qui restent après la récolte, donc ça dérange personne. Et globalement, il y a vraiment très très peu de conflits, tant mieux.
Eh bien, merci beaucoup, Pierre Rigaud, pour ce vol au milieu des grues cendrées. C'était un plaisir de vous écouter une fois de plus nous raconter cette vie de la nature.